Le problème, lorsqu'on veut agir pour Dieu, le grand problème des hommes, et je l'ai dit il y a un moment, on a cette tendance à favoriser l'extérieur par rapport à l'intérieur. N'est-ce pas? On vend l'intérieur avec le packaging. Mais si l'intérieur n'est pas bon, le packaging peut être aussi beau qu'on veut, ça ne sert à rien. Et les clients vont partir. Ils ne vont pas rester. Après, cette mentalité qui existe chez les hommes, elle doit disparaître lorsque on parle de l'Église. On ne peut pas faire une Église de cette façon-là. On ne peut pas vouloir créer une atmosphère ou créer ou un bâtiment ou n'importe quoi pour attirer les gens dedans. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut le faire, et ça existe, il y a beaucoup de gens qui agissent de cette façon-là. Donc, elle les aime beaucoup avec des petits oignons. Bref, décidément, entre les poulets ce matin. Bon, on est dans une ferme, hein. Ouais, il y a donc cette tendance qui est très forte, en fait, chez l'humain, de faire les choses pour que ça plaise, de séduire, en fait. Hein, c'est l'aspect de la séduction. Et lorsqu'on parle de l'Église, ces choses-là doivent disparaître. Et si on a cette tendance naturelle, il y en a qui l'ont plus que l'autre, plus que d'autres. Ceux qui communiquent facilement ont facilement cette tendance à vouloir séduire. C'est presque naturel. Mais donc, quelque part, il faut que Dieu intervienne chez ces gens-là en particulier pour détruire, en fait, ce qui serait la chose la pire, c'est-à-dire d'utiliser leur capacité naturelle pour faire en sorte que ça marche. Parce que le danger est là. C'est que finalement, on arrive à faire marcher quelque chose sans que Dieu soit présent, juste avec nos propres capacités, nos propres envies et nos propres idées sur les choses. Et donc, si je vous dis aujourd'hui qu'il faut que l'enseignement dans l'Église locale soit donné dans la puissance du Saint-Esprit, j'imagine qu'il n'y a personne de vous qui va me dire surtout pas. Vous allez me dire, oui, on est d'accord. Mais c'est une chose de le dire, et c'est une chose pour que ce soit effectivement vrai. Hein, et ça, c'est le problème de l'Église. Enfin, de l'Église. Je ne veux pas me tromper dans les termes que j'utilise. C'est le problème dans nos églises locales occidentales qui ne connaissent pas la persécution. C'est que nous avons le loisir de nous organiser et de faire en sorte que toute la puissance humaine s'exprime dans les choses que nous allons faire et que nous disons faire pour Dieu. Ça, c'est le problème. Et dans les endroits où l'Église est persécutée, ces choses-là ont tendance à disparaître complètement. Parce que les cultes sont réduits à la plus simple expression, c'est-à-dire que il y a chez les gens une urgence, celle de se réunir absolument, de se rencontrer, de se fortifier mutuellement. Et il y a aussi une autre urgence, évidemment, c'est d'entendre la parole de Dieu, de recevoir les choses qu'ils ont envie d'entendre, sachant qu'ils n'ont pas le droit de l'entendre. On ne veut pas qu'ils écoutent ces choses-là. Et donc, tout notre problème à nous dans le monde occidental libre, eh bien, c'est notre liberté. Beaucoup disent « c'est une bénédiction que vous soyez libre », Je me souviens que les Chinois, donc ça c'était lorsque le communisme commençait à céder du terrain au capitalisme et que la Chine commençait à s'ouvrir, que les chrétiens étaient plus libres, les pasteurs chinois disaient, ont posé la question aux pasteurs chinois, qu'est-ce que vous redoutez le plus pourquoi est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous l'avez compris pour que la persécution s'arrête définitivement et que la liberté vienne vraiment? Et il disait non, surtout pas. Surtout pas. Priez pour que le capitalisme ne vide pas nos églises. Ça, c'était la prière des pasteurs, parce qu'ils voyaient ce qui était en train de se produire, la liberté venant, les jeunes, les moins jeunes, pensaient à leur bien-être, et plus qu'à Dieu. Et les églises se vidaient. Et donc, le grand problème aujourd'hui dans le monde des églises, dans le christianisme, c'est de vouloir garder les gens absolument. Il faut les garder. Il faut les garder, il faut tout faire pour les garder. Et donc, il y a énormément de stratégies, d'organisations qui sont mises en place pour faire des églises attractives, faire des églises où les gens se sentent bien, où il y a beaucoup d'animation et où il y a un truc nouveau tout le temps. Il faut un prédicateur nouveau, il faut étudier un nouveau bouquin, voilà. Tout ça, on crée une agitation à nouveau qui est très proche des techniques marketing pour garder le client. C'est tout. C'est tout bête. C'est comme ça qu'on fait. Et donc, quel est le lien, finalement, entre enseigner la parole de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit et créer tout ce tissu d'organisation pour que les gens restent. En fait, il n'y a pas de lien, il y a surtout un problème. C'est que on est obligé de faire ça, c'est-à-dire de créer toutes ces organisations, toute cette organisation, parce que justement, la puissance n'est pas là. Et donc, il faut qu'il y ait une puissance qui vienne remplacer une autre puissance. Et malheureusement, on ne parle pas de la puissance de Dieu quand on fait ça. Et donc, l'Église, c'est avant tout une question de puissance, mais je le disais ce matin, de révélation. Parce que la puissance vient lorsqu'il y a la révélation de Dieu. Et révélation de Dieu, c'est pas « Ah oui, je suis d'accord avec la Bible. » Ça, c'est pas la révélation de Dieu. Vous pouvez avoir des gens qui sont pas des chrétiens qui disent « Je suis d'accord avec la Bible. » Il y en a plein. Il y en a plein qui vous disent « La Bible, c'est un bon livre. » Mais ça fait pas d'eux des chrétiens. Et il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils trouvent que la Bible est bien et parce qu'ils vont à l'église. Mais on n'est pas chrétien parce qu'on trouve que la Bible est bien et parce qu'on va à l'église, ni parce qu'on prie, ni parce qu'on va aux études bibliques, ni même parce qu'on parle de Dieu. Ce matin, je disais, le problème insoluble des Juifs à l'époque de Jésus, c'était qu'il y avait ce gars qui venait pour leur dire que l'Église de Dieu dans laquelle ils se trouvaient, c'est-à-dire, vous parlez de l'Ecclésia, donc le peuple de Dieu auquel ils appartenaient, finalement, eh bien, Jésus leur disait, mais non, aujourd'hui, c'est l'Église de Christ. On vous a dit, mais moi, je vous dis que. Et Christ a amené une loi qui surpasse la loi de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Lorsque on te prend ta tunique, eh bien, donne aussi la ceinture. Ça, ce n'était pas marqué dans l'Ancien Testament. Et le problème, c'est que lorsque on lit dans Matthieu 5, peut le lire. Hein. Ce que Jésus dit. Alors, je dis une nouvelle loi, mais ce n'est pas vraiment une nouvelle loi. C'est une façon de vivre. Parce que on sait bien que les gens étaient coincés avec la loi de Dieu. Ils n'arrivaient pas à la suivre, déjà là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il rajoute une couche. C'est-à-dire que là où la loi de l'Ancien Testament était même pas, on n'arrivait pas à la suivre vraiment, Jésus dit, eh ben, moi je viens, je bâtis mon église, et la loi qui va gérer cette église, c'est celle-là. Je commence au verset 11, Matthieu 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Après, il dit, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » C'est-à-dire que Jésus vient et dit, « Je suis moi la loi. J'accomplis la loi et je viens pour accomplir cette loi. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé, celui qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et ensuite, il continue, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Il est en train de dire la loi de Dieu, elle est celle-là et elle ne bougera pas. Mais moi, j'en rajoute sur cette loi. C'est-à-dire que là où vous étiez condamné parce que vous avez tué, maintenant vous êtes condamné parce que vous avez l'intention de tuer. La colère, c'est ce qui vient avant le geste. Et là, vous dites, mais attends, c'était déjà pas facile avant, et maintenant tu viens et tu nous demandes de ne pas nous mettre en colère. Il y a de quoi me mettre en colère. Mais en réalité, ce que Jésus est en train de faire, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que lorsque vous la voyez, cette loi, vous dites, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Et bien aimé, tant qu'on n'a pas accepté ce fait que ce que Jésus dit là, c'est impossible à vivre, alors on n'a pas encore compris qui est Jésus et ce qu'est l'Église. Parce que on ne peut pas obéir ou vivre selon cette nouvelle loi que Dieu nous donne. Si le Saint-Esprit, si la puissance du Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre en nous, on peut être d'accord. On peut dire oui, c'est beau, c'est magnifique ce qui est écrit là. C'est fantastique. Mais il y a un moment dans votre vie où vous êtes devant ces mots et vous vous dites, c'est fantastique, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je suis incapable de le vivre. Et il y a un moment où vous le lisez et vous dites « Amen, Seigneur ». Et entre les deux, il y a quelque chose qui s'appelle la foi. Entre le moment où vous dites « c'est pas possible, c'est impossible, c'est insensé » et le moment où vous dites « Amen, Seigneur, merci ». Il y a la foi. Dans Matthieu 23, vous lisez, à partir du verset 3, vous savez, à l'époque, les lettrés, les intellectuels, c'était les scribes et les pharisiens, avec les sadducéens aussi. C'était deux tendances, les pharisiens, les sadducéens et les pharisiens. Les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts et aux anges, je crois. Voilà. Mais c'était aussi un peu des partis politiques. Et puis il y avait les scribes qui étaient ceux qui lisaient dans le texte, qui lisaient aux gens et voilà, qui enseignaient. Et ils avaient des idées justes sur Dieu. C'est pas des gens qui s'amusaient à trafiquer le texte. Ils avaient des idées très justes sur Dieu. Tout ce qui était notifié, ils disaient « Amen, c'est ça que le Seigneur veut, c'est ça que le Seigneur dit, et il n'y a pas de problème. » Et d'ailleurs, Jésus ne les a jamais critiqués sur cet aspect-là. Il n'a jamais dit « Ne faites pas ce qu'ils disent. » N'est-ce pas ? Mais Matthieu 23, verset 2, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire. Alors, oui. Jésus, c'est Jésus qui parle. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et n'est-ce pas, il y a un contraste absolument extraordinaire entre ce que Jésus dit concernant le fardeau. Jésus dit, prenez mon joug sur vous, car il est doux et léger. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il n'y a pas, dans l'Église, il n'y a pas de fardeau difficile à porter. L'Église de Dieu, ça n'est, l'Église de Jésus, ça n'est pas ça. Ce n'est pas un endroit où on y va en traînant les pieds et on se dit « Allez, encore, j'y vais parce que c'est marqué, il ne faut pas que je quitte mon Église, mais il n'y a pas de fardeau dans l'Église de Christ, si ce n'est les fardeaux des uns et des autres qui sont partagés et dans l'amour, n'est-ce pas, où on échange sur les besoins des uns et des autres. Ce genre de fardeau, oui. Il y a parfois des moments où il faut intercéder, où il faut, avec une personne, ou pour une personne, ou entre plusieurs, intercéder pour que Dieu intervienne. Donc, la connaissance parfaite, la plus juste du monde, eh bien, ce n'est pas ça qui dirige une Église. C'est la façon d'être. C'est la façon dont on reflète le Saint-Esprit qui est en nous. Faites tout ce qu'il dit et disent et n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants en les mettant sur les épaules des hommes. Vous savez, il y a des églises, je les appelle les églises, il faut qu'on. Il faut qu'on. Il faut faire ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut que, il faut que, il faut que. Avec certains types de gouvernement d'église, vous avez un type qui est en haut et il ne fait que ça. Il passe son temps à dire « il faut qu'on, il faut qu'on, il faut qu'on » ou « il faut que vous ». Mais ça, ce n'est pas l'église. Il faut, par contre, que je sois moi un exemple et que la personne qui me voit puisse se dire « Il faut que je sois comme lui. » C'est ça que je vise. C'est ça qui... Waouh, c'est ça qui me plaît. Et ça, ce n'est pas la capacité humaine qui le fait. C'est parce que la présence du Saint-Esprit est visible chez cet homme. Donc pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour pour Dieu, n'est-ce pas ? S'il n'y a pas d'amour pour Dieu et pour les hommes, lorsqu'on partage la parole de Dieu, eh bien, les gens qui font ça ne sont pas des modèles à suivre. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, des pharisiens ? Ils ont la parole, ils la disent, faites ce qu'ils disent, mais ne les prenez pas comme modèles. On comprend que les pharisiens n'étaient pas contents d'entendre ça. Et quelle était leur réaction ? Eh bien, ils ont voulu le tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'allais dire, merci Seigneur. Il fallait qu'il meure. Alors, j'ai une petite citation de John Wesley. Je ne sais pas si vous connaissez John Wesley, qui était ce qu'on appelle un revivalist, c'est-à-dire un homme que Dieu a utilisé en son temps pour un réveil en Angleterre, où des centaines de milliers de personnes se sont converties, ont donné leur vie au Seigneur. Ça a été tellement puissant que les bars ont fermé, les dancings ont fermé, tout ce qui était consommation d'alcool, les jeux, tout ça a fermé. Et donc, il y a eu beaucoup de faillites dans ces domaines-là. Et parce que les mentalités avaient complètement changé. Et c'était un réveil absolument fantastique. Et John Wesley dit ça, je vais le lire deux fois, comme ça vous avez le temps de... Bon. L'orthodoxie, ou l'opinion juste, est au mieux une toute petite partie de la religion. Bien que les sentiments justes ne puissent subsister sans des opinions justes, les opinions justes peuvent cependant subsister sans des sentiments justes. Donc, on peut avoir de Dieu une opinion juste sans éprouver pour lui de l'amour ni de sentiments justes. Et il termine en disant « Satan en est la preuve ». Parce que Satan a une très grande connaissance de Dieu. Satan a une connaissance bien plus étendue que nous-mêmes, nous l'avons, sur Dieu, sauf en ce qui concerne l'amour de Dieu. Satan ne connaît rien de l'amour de Dieu. Et la question que je vous pose à vous, qu'est-ce que vous connaissez de l'amour de Dieu ? N'est-ce pas ? On l'a vu depuis le jardin d'Éden. C'est par amour que Dieu agit. Depuis le jardin d'Éden. Par amour pour sa création. Par amour pour son peuple. Dieu a agi. Et quand je parle comme ça des pharisiens, je ne dis pas que Jésus ne les aimait pas. Mais il n'aimait pas ce qu'il représentait alors qu'il devait représenter Dieu. Et il ne pouvait pas l'accepter. Et nous-mêmes ne pouvons pas l'accepter dans l'Église. Si Dieu n'est pas fidèlement représenté dans l'Église, et je ne vais pas parler de perfection absolue, évidemment, mais si Dieu n'est pas représenté fidèlement dans l'Église, le modèle ne peut pas être suivi. il ne doit pas être suivi, selon ce que Jésus dit. L'apôtre Paul avait compris ça. Dans 1 Corinthiens 2, verset 4, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il dit ça, mais ce n'était pas un moment juste particulier dans sa vie. C'était sa façon de prêcher tout le temps. C'est-à-dire que lorsqu'il prêche, lorsqu'il parle, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et ça rejoint ce que je disais ce matin sur la langue de disciples. Il faut que nous entendions, que nous ayons d'abord l'oreille du disciple pour entendre ce que Dieu dit. Et qu'ensuite nous ayons une langue de disciple et non pas une langue de vipère pour communiquer en temps et en saison, ce qui est nécessaire pour ceux qui en sont abattus, ceux qui sont chargés. Et si vous lisez dans les évangiles tout ce qui concerne Jésus, eh bien vous réaliserez que tout est basé en ce qui concerne la communication de Jésus, tout est basé sur l'écoute. N'est-ce pas ? Matthieu 17, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre, verset 5, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce n'est pas « regardez-le » ou « suivez-le », c'est « écoutez-le ». Et tout est lié à l'écoute. Et si vous allez même jusque dans Hébreux, chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, le ministère, et là, je ne parle pas du ministère de l'ancien ou du prédicateur ou de qui que ce soit d'autre, je parle du ministère des croyants. Le ministère des croyants dont on a parlé ce matin, c'était, vous êtes donc une sacrificature royale, c'est ainsi que Dieu nommait son peuple lorsqu'ils ont fait alliance pour la première fois, et Pierre le reprend dans 1 Pierre 2,9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Que vous annonciez. Et ce ministère de sacrificateur, il est pour tous les membres de l'Église de Christ. Ce ministère qui consiste à annoncer, il est pour tous les membres de l'Église de Christ. Ce n'est pas réservé à un prédicateur, ce n'est pas réservé à un ancien, ce n'est pas réservé à quelqu'un qui a fait une école particulière. C'est dans la nature même de l'Église que de communiquer l'œuvre de Christ. Vous avez été appelés des ténèbres. Adam, où es-tu ? Dieu nous appelle dans ces ténèbres pour nous en extirper et pour nous mettre à la lumière. Alors, vous allez me dire, « Ah, mais c'est formidable, donc je suis sacrificateur devant Dieu, prêtre. Voilà, donc j'ai toute une carrière devant moi maintenant, et je vais m'investir là-dedans. » Mais j'aimerais juste, par un petit verset, vous montrer que l'apôtre Paul avait une façon un peu plus grave de voir cette responsabilité qui était attachée à son ministère, justement, à ce ministère de croyants. Et juste dans Romains, je pense qu'il y a aussi dans Corinthiens, mais Romains 1, c'est juste la façon dont il s'adresse aux Romains. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Le mot serviteur, vous avez tous serviteur ? C'est un mot qui a une connotation plutôt liée à l'esclavage. Donc c'est un serviteur, mais pas rémunéré, pas payé. C'est quelqu'un qui est attaché à son maître de façon absolue et qui n'est pas libre de partir. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, c'est plutôt Paul, esclave de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas bien dans le monde moderne de dire on est esclave de quelqu'un, n'est-ce pas ? Mais la réalité de Paul, c'était ça. Et son cœur, c'était ça. Ce n'était pas d'aller faire ses propres trucs comme il en avait envie, là où il en avait envie. C'était de servir Dieu dans les choses que Dieu lui avait montrées. Et donc Paul perçoit son ministère avec une certaine gravité, n'est-ce pas ? Il était définitivement attaché à son maître et il ne s'appartenait plus à lui-même. Et n'est-ce pas, ça c'est une autre condition pour les enfants de Dieu. Combien de fois on a entendu des gens dire « J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus !» Et au bout d'un moment, vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'il a vraiment donné ?» La réalité c'est que l'enfant de Dieu, s'il dit appartenir à l'Église de Christ, il a tout donné. Et il ne s'appartient plus à lui-même. Il n'a plus d'autorité sur son propre corps. Il n'a plus d'autorité sur ses pensées, ses façons d'être et de faire. Toute l'autorité a été transmise à Christ, à la tête. Et si je devais refaire un parallèle entre l'Église, entre nous, chrétiens, dans le monde libre, et les chrétiens ou les et les endroits où les chrétiens sont véritablement persécutés, je dis véritablement parce qu'il y a des situations qui ne sont pas toujours aussi claires que ça, mais où les gens sont vraiment persécutés à cause de leur foi, la différence, elle est là. Quand ils se donnent à Christ, ils savent qu'ils ont tout donné. Parce que la mort est à leur porte tous les jours. Si je prends les chrétiens d'Afghanistan, par exemple, je peux vous garantir que celui qui dit aujourd'hui « je veux me faire baptiser pour déclarer » Pourquoi on se fait baptiser d'ailleurs ? On se fait baptiser premièrement et presque exclusivement pour être un témoignage devant les puissances des ténèbres. C'est aussi, bien entendu, le symbole du baptême dans le Saint-Esprit, mais avant toute chose, et c'est ça qui marque l'importance du baptême, c'est que c'est un témoignage puissant face aux forces des ténèbres. Et vous savez que quelqu'un un jour est venu me voir et me dit « Oui, Daniel, je ne suis pas convaincu du baptême. Est-ce que tu crois que c'est important ? » Et qu'est-ce qui... Et je lui ai dit, tu sais, au Moyen-Orient, en Afghanistan, enfin dans certains endroits, on te fiche la paix jusqu'au jour où tu te fais baptiser. Tu peux arriver à t'en sortir tant que tu n'es pas baptisé. Le jour où ils savent que tu es passé par le baptême, c'est fini. C'est le baptême est quelque chose de plus important qu'on croit. Ce n'est pas indispensable pour le salut. Ça, n'est-ce pas ? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais le baptême a une signification qui est forte, très forte. Paul, serviteur, esclave, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, annoncer, écoutez-le, annoncer. Ça, c'est le rôle, le travail de l'Église. Annoncer, faire en sorte d'être écouté. Jésus a lui-même eu des paroles fortes à ce sujet, n'est-ce pas ? Quand il nous compare à des brebis, je suis content qu'il ne nous ait pas comparé à des poules, hein, mais Jésus est clair et il dit « c'est à ma parole qu'on me reconnaît ». Jean 10, 27, « mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». N'est-ce pas ? Il y a une intonation, il y a un son, il y a quelque chose à quoi on arrive à se relier. Et c'est pour ça que parfois on peut voyager, aller loin et rencontrer quelqu'un. Et des fois, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. On se dit, là, il y a quelque chose, là. Il y a une odeur, il y a une subtilité, il y a quelque chose que je connais. Il y a quelque chose qu'on a en commun. Et puis tout d'un coup, on découvre, hein, mais on appartient à la même Église. Et bien sûr, ce sont les disciples qui aujourd'hui sont la parole de Christ dans le monde. Aujourd'hui, on a des écoles pour devenir disciples. Je ne sais pas comment on arrive à concilier les écoles pour devenir disciples avec le disciple de la parole de Dieu. Je ne sais pas. On est en train de m'expliquer que devenir disciple, c'est apprendre quelque chose. En fait, le seul qui peut nous apprendre quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Les autres peuvent nous apporter de la connaissance, toutes ces choses, mais fondamentalement, lorsqu'il s'agit de la puissance de Dieu, l'école de disciples ne peut rien apporter. Ou alors, peut-être qu'il y a une sorte de miracle qui se fait lorsque quelqu'un enseigne, il y a un miracle qui se fait, mais peut-être qu'alors c'est juste la nouvelle naissance. Peut-être que c'était des gens qui n'étaient pas convertis. Peut-être que c'est ça. Les disciples sont ceux qui annoncent la parole de Christ dans le monde. Ceux qui eux-mêmes ont un jour entendu la voix du Seigneur Jésus. Ce sont les mêmes qui, à leur tour, n'est-ce pas, vont annoncer l'évangile de Dieu par la même puissance de l'Esprit de Dieu. Et ça existe depuis 2000 ans. Et donc, pour nous, la question, c'est pas est-ce que je suis un bon disciple, est-ce que je sais tout faire ? La question, c'est est-ce que j'entends la voix du Seigneur Jésus me parler ? Et c'est pas nécessairement une voix audible, c'est une sonorité, c'est un ton, ça sonne juste aux oreilles de ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il y a des gens qui n'ont pas les oreilles pour entendre, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La parole dit dans les évangiles qu'il y en a qui n'entendent pas, ça veut dire que Jésus parle. Mais c'est bouché, là. C'est bouché. Ça pénètre pas. Et puis, il y a aussi ceux qui disent, mais moi, je ne suis pas fait pour prêcher. Je ne suis pas fait pour dire, témoigner, parce que je suis maladroit avec mes mots. Mais bien aimé, ce ne sont pas les mots qui comptent. Mais ce sont les informations que donne le Saint-Esprit. de façon par la puissance qui émane du Saint-Esprit. De sorte que ce n'est pas un entraînement à la prédication qui va vous rendre attractif, mais c'est votre ouverture à entendre la voix de Dieu, votre capacité à entendre la voix de Dieu dans votre cœur. Il y avait dans le Nord un gitan, il s'appelait Guigui, c'est bien un nom de gitan, et celui-là, il était complètement illettré, mais complètement, il ne savait rien lire, ni une bande dessinée, ni rien du tout. Et le Seigneur l'a appelé à lui, il s'est converti d'une conversion radicale, et il a commencé à prêcher. Il n'a pas fait d'école biblique parce qu'il ne savait pas lire, il n'a pas fait, il ne savait pas écrire non plus. Mais il a prié. Ça, il savait parler à Dieu. Et Dieu lui a dit, ouvre ta Bible. Des fois, je me demande, pourquoi c'est que les gitans qui entendent le Seigneur parler? Peut-être parce que, justement, ils lisent moins que nous. Ouvre ta Bible. Et il dit, mais je ne sais pas lire. Ouvre ta Bible. Il a ouvert sa Bible et il a commencé à lire. Et il a lu toute sa vie dans la Bible. Il n'a jamais su lire quoi que ce soit d'autre. Il ne savait pas lire un journal, il ne savait pas lire quoi que ce soit d'autre. C'était un miracle permanent et quotidien dans sa vie. Bien-aimés, des centaines de personnes se sont converties sous le ministère de cet homme. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Il y avait, je crois, 400 personnes qui étaient là, c'est Paul était présent. Et beaucoup étaient des responsables d'église, des pasteurs, qui s'étaient convertis sous le ministère de cet homme. Et pas des gitans. Il y en avait aussi. Mais, n'est-ce pas? Le problème avec le Saint-Esprit pour nous, c'est qu'on peut faire beaucoup sans lui. On peut le remplacer par plein de choses. On a tellement de moyens, on a développé tellement de moyens. La puissance de l'homme s'est tellement développée que finalement, on n'a pas besoin de l'intervention de Dieu. Est-ce que nous entendons la voix du Seigneur? Est-ce que moi, dans l'Église, membre de l'Église, est-ce que moi, responsable de l'Église, est-ce que moi, diacre, ancien, quoi que ce soit d'autre, est-ce que j'entends la voix de mon maître? Ah, mais je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Est-ce que tu entends sa voix? Et si tu entends sa voix, alors tu peux aussi le répéter, parce que c'est ce qui est dans le cœur, n'est-ce pas, qui sort de la bouche. C'est l'abondance que le Saint-Esprit met dans notre cœur qui sort de la bouche. Peut-être que ce ne sera pas une prédication très développée, mais ce sera une prédication convaincante. Dans Jean 3, on lit ce moment où Nicodème rencontre Jésus. Et il engage avec lui, donc il va voir Jésus dans la nuit, il s'approche et il engage la conversation avec Jésus de cette façon-là. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Donc Nicodème pensait avoir découvert qui était cette énigmatique personne qui sévissait dans le coin, ce Jésus, et il avait pensé comprendre, discerner que derrière ce Jésus se cachait un grand rabbi, un grand professeur, un surdoué envoyé de Dieu. Et donc Jésus dit à Nicodème, « Enfin, tu commences à comprendre qui je suis. » Non, Jésus lui répond. En fait, il ne répond pas à ce que Nicodème dit. Moi, c'est ça qui m'a toujours posé des questions. Pourquoi est-ce qu'il répond à côté, quoi ? Pourquoi il lui dit pas... Pourquoi il n'a pas une conversation normale avec lui ? C'est vrai, quoi. Et donc, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et ensuite, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et après, il continue, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Et on voit que Jésus met en opposition ce qu'on voit et ce qu'on entend. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ça, c'est pour Nicodème. Toi, tu dis, tu rends témoignage de ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'il avait vu, Nicodème ? Si vous allez à la fin du chapitre 2, vous lisez, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Nicodème avait vu les miracles de Jésus. Et Nicodème a fait une déduction qui était liée à ce qu'il a vu. Et c'est pour ça que Jésus l'emmène dans cette direction et lui dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Vous n'entendez pas. Vous ne recevez pas mon témoignage. C'est ça qu'il faut que tu reçoives, Nicodème, mon témoignage, pour véritablement savoir qui je suis. C'est ce que tu dois entendre de moi. Il faut une révélation. Tu témoignes de ce que tu as vu. Et c'est pour ça que tu penses que je suis un prophète venu de Dieu. Beaucoup de monde aujourd'hui est prêt à dire que Jésus est quelqu'un de formidable. Beaucoup vous diront, mais il est un exemple. Aujourd'hui, dans l'église protestante luthérienne, on vous dira que Jésus, c'est vraiment un exemple à suivre. Par contre, on vous dira, il n'a peut-être pas existé. Ça, c'est... Ah oui, c'est le discours actuel. Et c'est un bon exemple. Et je pense que Nicodème avait cette impression, n'est-ce pas, que Jésus était vraiment un bon exemple. Quelqu'un qui était bien et que lui était prêt à suivre. On peut admirer les œuvres de Jésus au travers de ce qu'on lit dans la Bible. Mais la foi en Jésus doit faire l'objet d'une révélation. Est-ce que vous pouvez apprendre à quelqu'un à avoir la foi ? Si vous savez le faire, dites-moi comment le faire. Sérieux, hein ? Il faut une révélation. Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Si Jésus dit à Pierre qu'il lui faut une révélation, si Jésus dit à Nicodème qu'il a besoin d'une révélation, qu'est-ce qu'il doit nous dire à nous ? Il faut une révélation. Et donc, finalement, ce qui compte vraiment dans l'Église, ce n'est pas la haute qualité des choses qu'on va produire. Ce n'est pas le fait qu'on soit dans un hangar ou dans une belle salle. Ça, à la limite, c'est accessoire. Ce qui est hyper important, indispensable, c'est que moi, c'est que Dieu et moi, que Christ et moi, que le Saint-Esprit et moi, on soit compatibles. C'est ça, la seule chose qui vraiment compte dans l'Église, c'est que je sois entièrement connecté avec Dieu, que j'ai reçu en moi les gènes de Dieu. On parle de régénération, n'est-ce pas ? Générer un gène spirituel qui est le même que celui qui coule en Dieu. Parce que l'héritage, l'Église, ce n'est pas mon héritage, c'est l'héritage de Christ. C'est son Église. C'est son héritage. On l'a lu ce matin, n'est-ce pas, dans Ésaïe. Ultimement, la naissance d'une Église, c'est l'histoire d'une mort et d'une résurrection. Christ s'est donné. Il est mort pour que vous et moi, nous ayons la vie. Et depuis, l'Église grandit à force que la vie de Christ est reproduite dans les hommes et les femmes sur la terre. Le principe fondateur de l'Église, ce n'est pas d'abord la foi apostolique. D'ailleurs, l'Église apostolique, ça n'existe pas. Je suis désolé. C'est l'Église première, c'est l'Église de Christ. Il a utilisé les apôtres pour démarrer, c'est clair. Mais ce n'est pas l'Église apostolique. C'est l'Église universelle de Christ. Ce n'est pas l'Église des apôtres, même s'il les a utilisés pour commencer à bâtir. Et je vais terminer sur le verset dans Jean 12, 24, qui pour moi est le fondement, en tout cas la nécessité absolue pour démarrer l'Église. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il n'y a pas d'église. N'est-ce pas ? Il reste seul. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est le secret de l'Église. Des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes, à leurs passions, à leurs préjugés, à leurs envies, à leur façon particulière de voir le monde, à son mort, à leur famille. Jésus en parle, n'est-ce pas ? Je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord m'occuper de ma famille. Vas-y, va t'occuper de ta famille. Tu ne peux pas être utile pour moi. Toutes ces choses doivent disparaître. Des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes, à leur passion, esclaves de Christ, dont le fruit tombe naturellement au sol et qui reproduit une magnifique plante qui est Christ. Et cette reproduction, elle est infinie. Et c'est ça l'Église. C'est ça dans l'Église universelle, mais c'est aussi ça dans l'Église locale. Romains 6, 5, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. L'Église naît de la mort et de la résurrection. Et à partir de la résurrection vient la multiplication. Je n'ai pas d'autre façon de vous expliquer comment on fait une église. Les détails techniques, vous pouvez lire l'épître pastorale, vous pouvez lire beaucoup de choses qui vont vous donner des indications sur ce qui se faisait à l'époque, la place des femmes dans l'église. Ça, je pourrais vous en faire un juste pour ça, si vous voulez. Vous seriez surpris. Peut-être on va le faire une fois. Mais réellement, la base de tout, elle est là. Il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de résurrection. Parce qu'il n'y a pas de multiplication s'il n'y a pas d'abord la mort et la résurrection. Est-ce qu'on veut prendre un temps pour prier, peut-être, et...